So the next presentation is going to begin.
La prochaine présentation sera offerte par Julian Alwyn. Julian est dans l'ordinateur portable. Vous le verrez dans quelques instants.
You should hear me now?
I can hear you.
Hi, Julian, do you hear me? This is Shabashish.
Julian, c'est Shabashish. Est-ce que vous entendez? Oui, je vous entends très bien. Donc, vous avez la parole. Nous vous verrons dans quelques instants à l'écran. Et nous y sommes. Vous pouvez donner votre présentation. Est-ce que vous voyez la première diapositive de ma présentation? Oui. Oui, nous voyons très bien votre diapositive. D'accord. Je vous remercie de l'invitation d'être parmi vous ce soir et merci de m'avoir donné l'opportunité de me présenter à distance et en pouvant rester à Cambridge, j'ai pu économiser à peu près le tiers des émissions moyennes de citoyens du Royaume-Uni. Et je crois que cela est tout à fait conséquent avec le thème de votre réunion. Je suis ici au Royaume-Uni, dans un ancien pays, et je vous parle dans un pays moderne, sachant que vous portez tous des chemises à carreaux et que vous avez dû traverser des grands terrains agricoles pour votre production énorme agricole. Mais quand vous songez au Royaume-Uni, pensez à notre histoire. Nous avons beaucoup d'histoires. C'est une de nos expertises au Royaume-Uni. Il s'agit d'une bonne histoire, d'une mauvaise histoire. Nous sommes reconnus pour notre histoire. Nous avons des beaux monuments comme celui-ci. Mais je devrais commencer ma présentation en faisant une confession. Nous avons aussi une dépendance secrète. Au Royaume-Uni, malgré notre patrimoine et la beauté de nos grands monuments, nous sommes dépendants de la poudre blanche et nous consommons de la poudre blanche d'une façon effarante. Nous sommes désespérés pour garder notre dose de cette poudre blanche. Nous utilisons 600 kg de ciment par personne par année. C'est à peu près 14 sacs, ce que vous pouvez voir dans l'image à l'écran. Et nous sommes également dépendants de l'acier. Nous consommons 20 kg d'acier par personne. Et supposez que vous avez un calorifère qui en pèse à peu près 160 kg. Donc, nous consommons 3 de ces calorifères ou 14 sacs de ciment. Mais nous sommes très judicieux. Même si nous sommes très dépendants, nous cachons très bien notre dépendance. Nous la dissimulons car nous sommes bons à créer des immeubles, des surfaces dans notre pays qui cherchent notre dépendance secrète. Nous mettons même un gazon qui paraît très bien lorsqu'on a un effet de la poudre blanche. Mais si vous regardez ce qui se cache derrière, nous avons une science de destruction de notre patrimoine et nous le remplaçons. Et c'est seulement quand vous comprenez comment on remplace notre patrimoine que vous commencez à comprendre ce qu'on fait avec notre dépendance à la poudre blanche et à l'acier. Certaines des images viennent de la ville de Bath où j'ai donné une présentation à ce sujet il y a quelques mois. Il s'agit d'un centre commercial à Bath qui a 35 ans. Et comme vous pouvez le voir, les citoyens de Bath qui ont un patrimoine très grand, l'ont complètement détruit pour le remplacer avec un tout nouveau centre commercial de la même taille. On peut voir qu'une partie de l'acier et du ciment qui est utilisé pour fabriquer le nouveau centre commercial. Mais Bath est une petite ville qui compte seulement à peu près 80 000 personnes. À Montréal, vous avez une ville à peu près 20 fois plus grande. Donc, pour vous donner une idée d'échelle, Voici trois immeubles qui ont été construits dans le district financier de Londres. Le premier, en avant, s'appelle le Gherkin, qui est le petit cornichon qu'on trouve dans les hamburgers chez McDonald's. Et si on ajoute, si on additionne tous les matériaux de ces trois immeubles, cela est à peu près égal à la consommation de matériaux des 80 000 hommes de base. À Montréal, vous consommez à peu près 60 immeubles de cette taille, en présumant que votre consommation est à peu près la même que celle au Royaume-Uni. Et je pense que vous êtes encore plus dépendant. Je crois que votre consommation de ces matières premières est encore plus grande que ça peut être. On peut voir que ce qu'on fait, c'est que nous sommes accros à l'acier et à la poudre blanche. Et nous transformons notre beau patrimoine en un cauchemar de gratte-ciel. Et sous peu, nous allons avoir des villes historiques qui ressembleront à celle-ci. Je souhaite que la vidéo fonctionne. Une vidéo qui devrait vous montrer en détail où nous dissimulons notre dépendance. Ce sont des images de la Chine. Est-ce que vous êtes en mesure de partir la vidéo? Je souhaite que vous pourrez voir la vidéo. Juste pour vous faire savoir que la vidéo... Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Ce que vous verrez, c'est les constructions les plus récentes en Chine. Après une brève introduction, vous allez voir une minuterie en bas à gauche, qui montrera le temps nécessaire pour construire un immeuble moderne de 14 étages en Chine. Les unités à gauche comptent en heures. Donc, sur la minuterie, on voit la progression de la construction en heures et non en jours. Est-ce que vous voyez ma prochaine diapositive? Ce que vous avez vu dans la vidéo est tout à fait incroyable. Vous pouvez imaginer la matière nécessaire pour construire cet immeuble, mais ce qui est un peu plus épeurant avec cette situation, lorsqu'on construit un immeuble avec ces méthodes, on le construit pour 200 ans, mais nous construisons, nous remplaçons ces immeubles en moyenne après 14 ans en Chine. On remplace l'immeuble encore plus rapidement. Donc, tous les matériaux qui sont transportés aussi seront jetés après 30 ans en moyenne. Le tableau ici montre que malheureusement, il n'y a pas de signe d'espoir avec une augmentation de la richesse. Ici, sur l'axe des X, on voit les revenus ou la richesse par personne. Et sur l'axe des Y, on voit la consommation d'acier par personne. Plus on s'enrichit, on se stabilise en utilisant à peu près 10 tonnes d'acier par personne. Vous serez content de savoir qu'en Canada, vous êtes la ligne verte, donc vous êtes encore plus haut que le reste des pays occidentaux. Même si la Chine utilise beaucoup d'acier pour construire de nouveaux immeubles, dans le monde développé, nous utilisons encore beaucoup d'acier pour remplacer les immeubles existants. Et nous allons regarder qu'est-ce qui arrivera lorsqu'en Chine, on passe de 3 tonnes par personne jusqu'au niveau actuel. Ce qui nous donne la capacité de faire des prévisions de la demande d'acier dans le tableau. On voit ici, d'ici 2050, nous allons utiliser à peu près deux fois la quantité d'acier qu'on utilise partout au monde aujourd'hui. On utilise surtout cet acier dans la construction. Mais nous utilisons aussi l'acier pour fabriquer des véhicules, pour fabriquer des infrastructures, pour fabriquer des biens et pour fabriquer du matériel industriel. Je vous ai fait prendre connaissance de notre dépendance. Pourquoi devons-nous nous soucier de notre dépendance à l'acier et au ciment? Au Royaume-Uni, nous avons adopté une loi en 2008 qui s'appelle la loi sur le changement climatique et qui nous engage à réduire nos émissions des niveaux de 1990 par 20%. En 2050, on pourra seulement avoir, nous allons devoir réduire nos émissions de 20% par rapport au niveau de 1990. Si nous regardons toutes les émissions produites dans le monde, on peut voir que 2/3 des émissions proviennent d'énergie, des procédés industriels, un tiers vient des activités agricoles et des matières résiduelles. Dans l'industrie, ces émissions sont liées aux véhicules, dans la fabrication des industries. Dans le domaine de l'industrie, il y a 5 matériaux qui dominent nos émissions. Après, 60% des émissions industrielles viennent de ces matériaux. L'acier, le ciment, l'aluminium, le papier. On peut voir que l'acier et le ciment dominent dans les sources d'émissions. Comment pouvons-nous régler la situation? Comment pouvons-nous réduire nos émissions de carbone? Tous les gouvernements au monde commencent à comprendre que les changements climatiques sont réels. Et ces gouvernements veulent régler le problème en investissant en recherche et développement et en trouvant une nouvelle source d'énergie magique. Donc, on investit dans les cellules photovoltaïques et dans l'énergie éolienne, mais il y a un problème avec ces technologies. C'est le problème, c'est la densité d'énergie. La densité d'énergie de nos carburants fossiles sont très grandes, c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz naturel. Le gaz anthropocentrique est à peu près 300 à 400 watts par mètre cube par année. Au Royaume-Uni, nous sommes environ 5 kilowatts par personne. C'est notre consommation stable. Vous avez 10 kW par personne au Canada. Mais nous avons beaucoup moins de territoire au Royaume-Uni. Ma diapositive a une flèche. Nous avons 1,5 kW par mètre carré. Ça, on couvre tout le pays par la génération d'énergie. Et si nous regardons de l'énergie, le vent sur la marche, des cellules photovoltaïques peuvent à peu près à la moitié. Donc, vous pouvez voir que comparé à 1,5 kW par mètre carré, nous avons un problème à répondre à notre besoin énergétique par des énergies renouvelables. C'est pas impossible, mais si vous pensez à l'objection publique par rapport au parc éolien, par rapport au parc de production d'énergie solaire, c'est impossible de remplacer notre consommation par des énergies renouvelables. Ce que ça nous dit, c'est que si on veut faire la différence, il faut utiliser moins d'énergie. On ne trouvera pas une source magique d'énergie pour régler le problème. Bonne nouvelle, c'est que dans le véhicule, nous savons comment changer les sources d'énergie. J'ai écouté un peu la présentation de Tim, il a parlé de cette voiture. Moi, je crois que cette voiture est la voiture de l'avenir. Vous pouvez vous renseigner sur la voiture concept L1. Elle répond aux normes de sécurité européennes. Elle pèse 380 kg. Elle a une grande efficacité énergétique à cause de sa petite taille. Si vous regardez sur toutes les ventes de voitures sur l'axe des Y, on a la consommation. Sur l'axe des X, on a le poids. Et si vous voulez avoir un véhicule qui consomme plus d'énergie, il faut un petit véhicule léger. C'est tout aussi simple que ça. Bon. Les véhicules écologiques sont les véhicules légers. Et ce véhicule propose une solution de transport qui consomme 1 à 2 litres par 100 km. Nous savons comment construire des maisons passives qui utilisent moins de 10% du logement moyen actuel. Donc, nous avons des idées sur comment réduire nos demandes en énergie pour obtenir ou atteindre nos cibles de réduction d'émissions. Si nous regardons l'utilisation des matières dans l'industrie, on peut voir que ce sont des processus qui utilisent beaucoup de chaleur et qui font beaucoup d'émissions pendant leur procédé de transformation. Et à cause de l'utilisation intense d'énergie, les ingénieurs essaient d'améliorer leur efficacité. Voici l'histoire de la production d'acier sur 40 ans. On peut voir que l'efficacité est en train de se stabiliser, est en train d'atteindre un plateau avec l'investissement dans les nouveaux équipements. Et la Chine à les meilleures fournaises. Et si on regarde la production mondiale d'aluminium, il y a des améliorations, mais très peu, dans l'efficacité. Et nous avons atteint un certain plateau. Malheureusement, cela veut dire qu'on ne peut pas résoudre notre enjeu de réduction d'émissions seulement en se fiant sur l'efficacité dans l'industrie. Autrement dit, si nous voulons réduire l'efficacité ou si nous voulons réduire la consommation d'énergie dans l'industrie, nous devons réduire notre consommation de matière. Nous devons regarder cette question sous différents points de vue. Et c'est la poutre qu'on utilise typiquement dans la construction. Il y en a une autre qui est optimisée pour avoir les mêmes caractéristiques, mais avec beaucoup de moins de matière. Ces poutres nous permettront d'économiser un tiers de la matière que nous consommons en ce moment. Mais en conservant les propriétés des immeubles, c'est une belle opportunité. Au cours des dernières années, il y a un étudiant qui s'est assis dans trois des plus grandes agences de constellation de design. Il s'est penché sur les différentes conceptions des immeubles aujourd'hui. Il voulait savoir comment on compare la conception de ces immeubles avec les normes de sécurité en Europe. Nous avons trouvé un ratio d'utilisation. La portion d'acier nécessaire pour que les immeubles soient sécuritaires. Ce que les constructeurs ont dit, c'est qu'ils sont assez efficaces. Et ce que nous avons constaté, c'est que des grandes parties de l'immeuble utilisent seulement un quart de l'acier nécessaire pour répondre aux normes de sécurité européennes. Nous avons regardé 20 conceptions différentes et en moyenne à Londres, on utilise deux fois plus d'acier qu'il serait nécessaire pour répondre aux normes de sécurité. C'est seulement parce qu'il est plus économique de sauver sur la main-d'œuvre que de sauver sur les matières. Nous économisons en main-d'œuvre en copiant la conception d'un endroit et en la reproduisant ailleurs. Il y a beaucoup de place à l'amélioration dans l'optimisation des structures des bâtiments. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut faire durer nos immeubles pour 200, 300, 500 ans au lieu d'avoir des immeubles qui durent en moyenne 40 ans. Donc, il faut réparer les biens lorsqu'ils sont brisés au lieu de les jeter et de les remplacer. On peut aussi mieux gérer nos matières résiduelles. Donc, il y a des façons plus efficaces de réutiliser les rebuts d'acier. Un des projets que nous avions, c'était de créer une carte de toute l'acier au monde. C'est un diagramme qui montre la circulation de l'acier. En haut à gauche, on voit le minerai de fer et l'acier recyclé qui est transformé par l'industrie de l'acier et qui est transformé dans des produits à droite. Vous pouvez trouver toutes ces diapositives plus tard si vous voulez les regarder en détail. Et par-dessus, nous avons superposé trois stratégies avec la quantité de rebuts d'acier et nous avons aussi superposé des stratégies qui utilisent moins de matières premières ou en ayant une plus grande efficacité. Au Royaume-Uni, nous avons une voiture par deux habitants, et je pense que ce ratio est encore plus grand au Canada. Les voitures ont en moyenne cinq places assises. Mais ce qui nous montre qu'on pourrait avoir moins de voitures, si nous augmentons l'intensité d'utilisation des voitures et l'occupation des voitures, c'est-à-dire. Nous devons rédiger un manuel sur ce qu'on a appris de nos études. Vous verrez mon nom dessus. C'est une annonce flagrante d'un ouvrage. Mais il est disponible gratuitement. Vous pouvez télécharger à l'adresse que vous voyez à l'écran. Et vous pouvez trouver toutes les données dont j'ai parlé dans la version numérique du livre. Depuis que nous avons publié cet ouvrage, nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas résoudre les défis de l'industrie avec l'efficacité énergétique, mais on peut le faire en utilisant moins de matière. Nous pouvons bien vivre sans matière, mais on choisit de ne pas le faire. Actuellement, ce qui arrive, c'est que les clients veulent plus de matière. Voici une étude que nous avons faite pour les Jeux Olympiques de Londres. Voici le centre aquatique. Apparemment, la forme au milieu est conçue pour avoir l'air d'une vague. Si vous êtes un architecte et vous avez des sentiments, mais nous sommes des ingénieurs. Donc, nous préférons de loin le vélodrome. Nous avons fait cette étude et nous avons regardé pour chaque siège contenu dans l'aquadrome. Il y a deux fois plus de matière que dans les sièges dans le vélodrome. Mais dans le centre aquatique, il voulait avoir un toit époustouflant. Donc, si le client veut un immeuble léger, efficace, les ingénieurs savent quoi faire. Les ingénieurs aiment les contraintes. Donc, si les ingénieurs peuvent convaincre le client d'émettre des contraintes, tant mieux. Mais ce n'est pas ce que les clients veulent faire. Ici, sans Photoshop, la voiture à droite est la Mini Austin originale des années 50 et la version à gauche, c'est celle disponible aujourd'hui. On ne veut pas de petite voiture, on veut la plus grosse voiture que l'on peut obtenir et d'avoir le plus d'accélération possible. Mais c'est vrai dans tout ce que nous faisons. Tous ces tableaux sont par personne. Et voici le transport par personne qui a évolué au cours des 40 dernières années. La ligne bleue montre le nombre de vols par personne et cela a augmenté de façon linéaire. C'est par personne en moyenne au monde. Voici la consommation de matière par personne. Voici la propriété de voiture. Et la quantité d'espace construite par personne. On voit que cette croissance dépasse la croissance démographique. Et voici le développement de moteurs électriques. on consomme ces produits car ces produits nous permettent de se sentir mieux. Avant d'aller acheter un nouveau réfrigérateur, on va dans le magasin et on dit que la consommation énergétique est un des éléments importants dans le choix d'un nouveau réfrigérateur. Mais lorsqu'on se rend au magasin, on veut trouver le plus grand réfrigérateur que l'on voit. Il est si grand ce réfrigérateur, on peut même entreposer des aliments secs qui n'ont pas besoin d'être réfrigérés, parce qu'on est obsédé par l'espace. Mais il y a un problème. Puisque nous utilisons l'énergie comme substitut de main-d'œuvre, nous utilisons aussi l'argent comme substitut de main-d'œuvre. Ce que nous savons tous, c'est que nous aimons faire travailler les personnes pour nous. Plus nous avons des servants qui travaillent pour nous, plus on se sent riche. Mais le problème, c'est que nous avons réduit les problèmes de la vie à des problèmes économiques. C'est comme si le PIB mesure des choses que nous valorisons. J'ai commencé à faire l'étude des pierres tombales. Et peu importe qui c'est, ce que l'épitaphe de sa pierre tombale indique, c'est en tant que commerçant et éditeur d'un journal, il était reconnu pour sa rigueur et sa pratique dans l'éthique. On se souviendra longtemps de lui comme homme remarquable et intègre. Je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus important que le salaire de cet homme et le PIB. Une autre image. Je ne connais pas le contexte, mais ça semble être des Indiens qui se baignent dans le Gange. Et quand je vois cette image, je pense aux relations, je pense aux croyances, aux traditions et à la communauté. Mais je ne vois rien qui touche le revenu. Et je pense aux loisirs et aux pratiques au Royaume-Uni. Et quand je regardais qu'est-ce que les Canadiens aiment faire, les Canadiens aiment bien aussi se rapprocher, mais avec plus d'équipements de protection. Vous croyez que nous sommes flegmatiques, imaginez-vous. Nous aimons notre patrimoine royal. Nous aimons tant de choses qu'on croit que le PIB devient le seul facteur de réussite. Mais à des centaines de mètres de ce que je suis assis. John Maynard Keynes, à la fin de sa vie, avait écrit un livret sur les possibilités économiques de nos petits-enfants. Dans son papier, il avait dit, depuis la première fois depuis sa création, maintenant que l'humanité a réglé ses problèmes de production, sera confrontée à son problème permanent. Comment transformer ses préoccupations économiques et plutôt se concentrer sur la philosophie pour vivre dans le bonheur. Et je crois que c'est là où repose l'enjeu de la durabilité. Il me manque de temps pour la présentation. Voici ce que je fais en ce moment. Et la porte est ouverte pour les collaborations. Voici une activité que je mène au Royaume-Uni. Mais j'aimerais conclure en vous disant, par rapport à ce que je vous ai montré et toutes les données sur lesquelles je me suis penché, il n'y a pas de miracles technologiques qui vont créer un avenir durable. Il n'y a pas une source d'énergie magique. Il n'y a pas de solution magique d'efficacité qui nous permettront de continuer de croître, car notre appétit est insatiable. Nous aimerions toujours avoir plus de services et de biens que ce que nous avons. Mais au lieu de montrer ceci comme la vision de l'avenir, nous pouvons assez nous souvenir des avantages que nous voyons lorsque nous visitons nos anciennes villes, lorsque nous voyons notre patrimoine, et lorsqu'on voit les efforts communautaires et l'artisanat utilisés pour la construction de ces anciennes villes. Peut-être qu'on peut trouver un rôle pour les ingénieurs si on accepte les contraintes et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec les ressources qu'on se permet de prendre? On est si concentré sur le revenu et sur le PIB, Nous avons oublié ce qui est important pour nous. J'ai cherché une image qui pouvait résumer cette pensée. Je vais vous le dire avec une image qui résume le développement durable. Cette image. Je ne peux pas me souvenir d'avoir cette âge, mais je peux me souvenir mes parents qui me disaient comment j'aimais prendre mon bain dans l'évier à la maison. Ce n'est pas moi, mais il y a une certaine joie là-dedans. Cela se résume au sentiment humain. Et ça n'a rien à voir avec l'énergie, le revenu, l'argent ou le bien-être matériel. Et si on peut calibrer nos vies personnelles et publiques pour atteindre ce que cette personne apprécie, seulement à ce moment, on aura la possibilité de trouver un avenir durable. Là-dessus, je vous remercie.